Il est midi en temps universel, une heure de plus ici à Paris. Le journal international. Bonjour Olivier Charman.
Bonjour Clotilde Dumay. Bonjour à toutes et à tous. Une onde de choc pour les marchés financiers après l'annonce de Donald Trump d'augmenter de 25% les taxes sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Le monde économique est donc choqué et les actions des constructeurs reculent sur les marchés boursiers. Au lendemain de cette décision américaine, les explications dans ce journal avec Agnieszka Kumor. Le sommet des volontaires alliés de l'Ukraine en cours à Paris. Près de 30 pays sont réunis autour d'Emmanuel Macron. Julien Chavannes sera avec nous de l'Élysée. 5 ans de prison ferme, c'est la peine que vient de prononcer un tribunal algérien à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Son avocat appelle le président algérien à faire preuve d'humanité en graciant le romancier. Paris exhorte les autorités algériennes à trouver une issue rapide, humanitaire et digne à cette situation. Nous retrouverons notre correspondante à Bordeaux, Noémie Loueller, qui suit le procès de Mounir Bouta pour avoir brûlé vive sa campagne Shaïnès Daoud il y a 4 ans. Depuis le début de son procès, le prévenu n'a émis aucun regret. Nous terminerons enfin en musique avec la sortie du premier album de la chanteuse, compositrice et guitariste britannique Maya Delila, de la soul pop et un brin de nostalgie avec du bon funk qui ressemble à du Prince.
Les partenaires commerciaux des États-Unis cherchent à contrer les nouvelles annonces de Washington.
25% de taxes supplémentaires seront imposées à partir du 2 avril sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées sur le sol américain. Le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, le Canada et l'Allemagne sont les plus gros exportateurs de voitures vers les États-Unis. Agnieszka Kumor, bonjour.
Bonjour.
L'impact de cette nouvelle escalade de la guerre commerciale pourrait être mondial.
La réaction en Asie a été immédiate. Les actions des constructeurs nippons et sud-coréens ont dégringolé de 3%. Le Japon et la Corée du Sud représentent respectivement 16 et 15% du total des importations automobiles des États-Unis. Certains constructeurs, comme Toyota, ont pris le devant en installant directement leurs usines aux États-Unis. La hausse des taxes représente aussi une charge considérable pour les entreprises et les chaînes d'approvisionnement mondiales de l'industrie automobile. L'équipementier français Valeo a déclaré qu'il devrait augmenter ses prix pour répercuter cette hausse. Les constructeurs allemands devraient en souffrir également. Ils possèdent une partie de leur production locale aux États-Unis, mais la plupart de leurs modèles haut de gamme sont exportés d'Allemagne et d'Europe de l'Est. Et puis, les constructeurs américains sont aussi concernés. Leur modèle économique repose sur la production de leurs usines au Mexique et au Canada, ce qui fait qu'au final, les consommateurs américains pourraient en payer les frais.
Ajoutons, Agnieszka, que le dollar chute de 1% face à l'euro, plombé par les craintes de récession aux États-Unis. Et votre invité dans une quinzaine de minutes, Clotilde Dumay, sur ce dossier sera Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire 7LM de l'automobile. Près d'une trentaine de dirigeants européens, l'OTAN, l'Union européenne et la Turquie, Emmanuel Macron rassemble à Paris les pays alliés de l'Ukraine. Objectif, s'assurer que Kiev ne soit pas victime d'un cessez-le-feu aux conditions de la Russie. Le président français a reçu hier soir Volodymyr Zelensky et il a appelé ce matin le président américain Donald Trump. Julien Chavannes, vous êtes à l'Élysée, bonjour.
Bonjour.
Cette coalition des volontaires, Julien, comme l'appelle Emmanuel Macron, est censée finaliser les garanties de sécurité pour l'Ukraine.
Oui, par quels moyens dissuader la Russie de recommencer à attaquer l'Ukraine ou de menacer l'Europe? Comment faire respecter un cessez-le-feu? Voilà de quoi parlent en ce moment les alliés de Kiev, le chancelier allemand Olaf Scholz, l'italienne Giorgia Meloni, le polonais Donald Tusk, les pays scandinaves ou encore le vice-président de la Turquie, tous aux côtés de Volodymyr Zelensky. Ils sont hors jeu des discussions directes entre Washington et Moscou, mais ils ne comptent pas laisser Vladimir Poutine imposer ses conditions sans contrepartie.
Et l'une de ces garanties de sécurité pour l'Ukraine, Julien, c'est l'envoi d'une force de réassurance sur place, mais le sujet est loin de faire l'unanimité.
C'est vrai que là-dessus, Paris et Londres sont encore isolés. Leur idée est d'envoyer une force de maintien de la paix en Ukraine, pas pour contrôler un éventuel cessez-le-feu, ni pour combattre, a précisé hier soir Emmanuel Macron, mais pour s'assurer que Vladimir Poutine ne recommence pas. Alors pour l'instant, les alliés de Kiev ne se bousculent pas pour y participer. Emmanuel Macron va présenter dans une heure à peu près les résultats de ce troisième sommet du genre. Avec du concret, l'heure est venue de tirer les conclusions opérationnelles, a promis en tout cas la présidence française.
Julien Chavannes en direct de l'Elysée. Et depuis 4 jours, il n'y a pas eu de frappe russe ou ukrainienne contre des sites énergétiques selon Kiev. En Pologne, le président Duda a ratifié la loi permettant au gouvernement de suspendre le droit d'asile de façon temporaire et introduisant pour la première fois le terme « instrumentalisation de la migration » dans le droit polonais, une mesure censée lutter contre la guerre hybride menée par Moscou et Minsk qui pousse les réfugiés vers la frontière polonaise pour déstabiliser Varsovie. Les explications de notre correspondant Adrien Sarla.
À peine la loi signée par le président, le premier ministre s'est empressé de suspendre le droit de demander l'asile le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Depuis plusieurs mois déjà, des experts du droit international et des humanitaires comme Kalina Czarnuk interpellent le président et les parlementaires polonais pour dénoncer cette disposition.
C'est un scandale et ce qui est inquiétant, c'est que ça n'a suscité aucune opposition dans l'opinion publique. On a ici un gouvernement qui, en théorie, est censé veiller à ce que la Pologne ne viole pas les droits de l'homme, mais ce n'est pas du tout ce qu'il fait en pratique.
Selon elle, cette loi est contraire à la constitution du pays, mais aussi à la Convention de Genève ou encore à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Comme de nombreux activistes, elle dénonce un discours anti-migrant qui dépasse désormais les clivages politiques en Pologne.
La thématique de la sécurité à la frontière est fortement mise en avant avec la campagne électorale. Alors on s'attendait à ce que cette loi soit mise en place avant les élections. Donc on n'est pas vraiment surpris, même si c'est une grosse déception pour nous.
Cette suspension du droit d'asile s'appliquera pendant les 2 prochains mois et pourra être reconduite. Rien qu'au cours de la journée d'hier, plus de 180 personnes auraient tenté de franchir illégalement la frontière. Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
Il est midi 7 en temps universel. L'État de Floride examine un projet de loi qui assouplit les conditions dans lesquelles les mineurs pourraient travailler.
Et cela pour compenser la perte de main-d'œuvre liée à l'expulsion de migrants. L'État est connu pour sa législation très coercitive envers les migrants illégaux. Mais cette politique pose un autre problème. Les entreprises manquent à présent de travailleurs peu qualifiés. Le gouverneur de Floride pense donc avoir trouvé la solution. Anne Verdaguer.
Le texte vise à autoriser le travail de nuit dès 14 ans si ces jeunes sont scolarisés à la maison ou suivent des cours à distance. La loi actuelle leur interdit de travailler avant 6h30 et après 23h. Pour les jeunes de 16 et 17 ans, le travail de nuit serait rendu possible, même les jours de cours, et la pause déjeuner ne serait plus obligatoire. Pour le gouverneur de Floride, cela ne pose aucun problème moral, bien au contraire. C'était comme ça quand j'étais jeune et nous n'avons pas besoin de faire venir des étrangers pour un travail qui peut être fait par des lycéens, a-t-il affirmé. Pour les spécialistes de l'enfance, cette loi comporte pourtant un certain nombre de risques, et notamment pour les jeunes les plus démunis qui auront du mal à refuser des conditions de travail difficiles et seront moins protégés. Ironiquement, ce sont aussi les jeunes migrants illégaux qui sont le plus à même d'accepter ce type d'horaire et de contraintes. En Floride, certaines entreprises n'ont pas attendu cette loi. Le nombre d'infractions au droit du travail des enfants a triplé entre 2019 et 2022.
Les précisions d'Anne Verdaguer. 50 prisons fermes prononcées contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
Oui, le tribunal algérien a rendu son jugement ce matin. Il était en détention depuis novembre. Dès l'annonce de la condamnation, son avocat français François Zimeret a appelé le président algérien Tebboune à faire preuve d'humanité en graciant le romancier. Paris exhorte les autorités algériennes à trouver une issue rapide, humanitaire et digne à cette situation.
Jair Bolsonaro va devoir s'expliquer devant la justice.
La Cour suprême du Brésil a décidé que l'ex-président d'extrême droite devait être jugé pour tentative de coup d'État en 2022, un plan ourdi de longue date dans lequel il aurait tenté d'embarquer l'armée, selon l'accusation. Ce que dément Jair Bolsonaro, qui espère reconquérir le pouvoir lors de la présidentielle de 2026. Pour Hervé Théry, géographe, professeur à l'université de Sao Paulo, cela semble compliqué pour l'an prochain, mais cette décision de la Cour suprême ne signifie pas pour autant la fin de politique de Jair Bolsonaro.
Je pense qu'en tout cas, c'est un coup sérieux à sa défense, parce qu'il a, je pense, espéré longtemps s'en tirer. Mais ça paraît assez mal parti pour que lui soit présent à la prochaine élection. Et ça se vérifie d'autant plus que les gens qui voudraient prendre sa place sont déjà en train de se bagarrer pour le remplacer. D'après la Folia de São Paulo là, de ce matin, ils disent un procès dans l'année, ce qui ne serait jamais qu'un retour de ce qui a été fait pour Lula, qui lui-même a été jugé de façon assez rapide, justement pour savoir s'il pouvait se présenter ou pas à l'élection. Et effectivement, il ne l'a pas été. Et donc, on peut penser que ce sera la même chose pour dégager le terrain de ce côté-là. Il faut être très prudent parce qu'au Brésil, les choses sont imprévisibles. Il y a des cas assez extraordinaires. Par exemple, Getúlio Vargas, qui était un dictateur et qui est devenu de gauche. Il y a des gens donc condamnés pour mort qui sont revenus. Enfin, on sait que 20, 25, 30% de la population le soutient. Donc, il a quand même un capital politique que ses successeurs sont déjà en train de se disputer.
Hervé Théry, géographe, professeur à l'université de Sao Paulo, interrogé par Marine de la Moissonnière. Le président brésilien Lula a indiqué de son côté ce jeudi depuis Tokyo qu'il ne pouvait qu'espérer que justice soit rendue dans le futur procès de l'ex-président. Il est évident, dit-il, que l'ancien président a essayé d'organiser un coup d'État dans le pays, qu'il a essayé de m'assassiner, ainsi que le vice-président. Et tout le monde sait ce qu'il a fait, a déclaré Lula au dernier jour d'un voyage d'État au Japon. Les feux qui ravagent le sud-est de la Corée du Sud sont les plus destructeurs et les plus meurtriers enregistrés dans le pays. Le bilan s'est alourdi à 27 morts et des dizaines d'autres blessés. Les feux de forêt contre lesquels luttent les pompiers ont ravagé 35 000 hectares, ce qui représente la superficie de la ville de Marseille ou de l'île de Malte. En plus des milliers de pompiers déployés, des centaines de soldats ont été mobilisés et l'armée américaine fournit un soutien par hélicoptère depuis ses bases militaires du sud du pays. Au quatrième jour du procès de Mounir Bouta, pour avoir brûlé vive sa compagne, Shahinez Daoud, il y a 4 ans. Experts, psychologues et psychiatres ont défilé à la barre de la cour d'assises de Gironde ce matin. Depuis le début de son procès, le prévenu n'a émis aucun regret ni sentiment de culpabilité, Noémie Lehouleur.
Oui, un narcissique atteint d'un trouble de la personnalité paranoïaque, étanche à toute remise en question, un jaloux maladif dangereux sans aucune empathie. C'est ainsi qu'est décrit Mounir Bouta par les experts psychologues et psychiatres. À quelques mètres dans son box, l'accusé reste impassible. Il maintient sa posture victimaire, convaincu d'avoir été trompé par Shahinez Daoud, ce que l'enquête dé... Il est aussi persuadé d'avoir été manipulé et spolié. « J'ai beaucoup à dire sur le mal qu'elle m'a fait. Cette femme est le diable », a-t-il dit aux experts qui l'ont rencontré 2 et 3 mois après le meurtre de Shahinez Daoud. Le 4 mai 2021, Mounir Bouta attend la victime toute la journée devant son domicile de Mérignac, dans un van. Quand il l'aperçoit...
Une décision difficile avec le tribunal de Bordeaux, c'était Noémie Lehouleur. Le délibéré sera rendu demain vendredi. Autre procès, le procès libyen, les peines requises contre Nicolas Sarkozy et 11 prévenus attendus. Au troisième et dernier jour de réquisitoire, avec les sanctions en fin de journée, les 3 procureurs développent depuis ce matin leur vision des volets annexes de ce dossier, notamment la possible vente fictive de tableaux flamands par Claude Guéant. Enfin, la chanteuse, compositrice et guitariste britannique Maya Delilah sort son premier album, The Long Way Round, un premier album ambitieux qui entend illustrer le cycle des relations humaines, faire le pont entre une romance ratée et le début d'une nouvelle passionnante. Pierre Vallée.
Comme tous les gens de sa génération, Maya Delilah, 24 ans, possède des comptes sur presque tous les réseaux sociaux. Et surtout, elle y poste de courtes vidéos sur lesquelles on la voit, assise en tailleur, en train de jouer de la guitare. Ces vidéos sont séduisantes parce qu'on a l'impression d'être son amie, d'assister à un moment privilégié. Et en plus, elle donne une bonne idée de son niveau de guitare, et notamment de son joli phrasé tout en glissant. Mais à partir de demain, les choses sérieuses vont commencer pour Maya, avec la sortie de son premier album, The Long Way Round, sur le prestigieux label Blue Note, le label sur lequel ont été enregistrés pléthore d'albums devenus des classiques du jazz américain, de Miles Davis à John Coltrane. Pourtant, loin du jazz, son disque est plutôt arrangé dans la catégorie soul pop, avec des chansons au tempo assez lent qui invitent à l'introspection. Si ce n'est, en plein milieu du disque, le morceau Squeeze, un funk teinté d'ironie, plein de nostalgie des années 90, sur lequel Prince aurait très bien pu s'inviter pour un petit solo.
Et maintenant, c'est la suite de RFI Midi avec vous, Clotilde Dumay.
Et c'était Olivier Sherman pour le journal. On passe au sport. Bonjour Christophe Dirimzian.
Bonjour Clotilde.
Du football d'abord avec les Lyonnaises qui entrent dans le dernier carré de la Ligue féminine des champions en éliminant le Bayern de Munich en quart de finale retour.
Oui, les Fenottes avaient fait déjà un bon bout de chemin vers ses demi en l'emportant 2-0 à l'aller en Allemagne. Mais l'ampleur de la seconde victoire hier au Groupama Stadium, 4-1, masque un début de match bien laborieux. Mené 1-0 à la pause, les Lyonnaises ont sonné la révolte dès le retour des vestiaires. Par leur quatuor offensif, la haïtienne Melchi Dumornay, la malawite Tabitha Shawinga, la norvégienne Ada Egerberg et Kadi Diatou Diani, l'internationale tricolore, double passeuse décisive, a ravi les qualifications, mais consciente que l'équipe a quand même cafouillé au début.
On est satisfaite, mais ça n'a pas été facile, notamment en première période. On sait qu'on n'a pas été à la hauteur, donc voilà, on est revenu avec de meilleures intentions. Et je pense que c'est le plus important, parce que bien évidemment, ça peut arriver qu'on soit un peu moins bien. Et je pense qu'il y a fait la différence, c'est vraiment la réaction, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Quand on commence à arriver au niveau des stades de demi-finale, on a de bonnes équipes. Je pense qu'il ne va pas falloir tomber dans la facilité de se dire que c'est déjà fait, et de rester concentré, focus sur nos objectifs.
Kadi Diatou Diani au micro de Radio France. Cette demi-finale aller, l'OL la disputera le 19 ou le 20 avril contre les joueuses d'Arsenal après une superbe remontada face au Real Madrid. Victoire 3-0 contre une défaite 2-0 en Espagne. Les autres quarts de finale à suivre aujourd'hui. Le FC Barcelone, double tenant du titre, affronte les Allemandes de Wolfsburg et un duel 100% anglais entre Chelsea et Manchester City.
Et puis l'équipe masculine de Barcelone joue également ce soir un match en retard de la Liga espagnole.
Les Catalans accueillent Osasuna pour le compte de la 27e journée. Initialement programmée le 9 mars, la rencontre avait été reportée à la suite de la mort de Carles Minaro, un médecin du Barça. Match très important pour les joueurs d'Hansi Flick qui peuvent reprendre seuls la tête du championnat avec 3 points d'avance sur le Real Madrid en cas de succès. Gros enjeu donc, alors que les internationaux rentrent à peine de sélection et qu'un autre match les attend dès dimanche. Le technicien allemand n'a donc pas manqué de pester comme beaucoup d'autres sur les cadences infernales.
Il y a quelque chose à changer sur le repos des joueurs. Je ne suis pas content. Quand on regarde les autres championnats, comment ils gèrent les clubs qui jouent la Ligue des Champions, c'est totalement différent par rapport à ici. Quand on joue la Ligue des Champions, il ne s'agit pas du Real Madrid contre le Barça. Il s'agit de protéger les équipes espagnoles qui, en plus, sont performantes dans cette compétition. Mais je ne peux pas changer ça. Donc, on va jouer, comme je l'ai toujours dit, sans se chercher d'excuses.
Hansi Flick qui fait contre mauvaise fortune bon cœur avant ce Barça-Osasuna de mise à jour du calendrier à partir de 20h TU.
Et puis du tennis, Christophe, avec la suite du tournoi de Miami.
Et dans le tableau masculin, 3 quarts de finale, sachant que le Bulgare Grigor Dimitrov est déjà en demi. Par ordre d'apparition sur le court tout à l'heure, Arthur Fils, tombeur au tour précédent du numéro 2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev affronte le Tchèque Jakub Mensik. Novak Djokovic est opposé à l'Américain Sébastien Corda et l'autre Américain en lice, Taylor Fritz, face à l'Italien Matteo Berrettini. Chez les dames, demi-finale à suivre, la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka contre l'Italienne Jasmine Paolini et l'Américaine Jessica Pegula face à la sensation de ce tournoi, la Philippine Alexandra Ehala, 140e mondiale qu'a sorti Iga Świątek en quart.
Christophe Dirimzian pour les sports.
RFI, le monde à midi.
C'est la dernière annonce qui assomme le monde économique et plus spécifiquement le secteur automobile. Donald Trump veut imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis. Ces taxes s'appliqueront dès mercredi prochain, d'après le président américain. Décision qui a provoqué une levée de boucliers mondial, du Japon au Brésil, en passant par le Canada, le Mexique, l'Allemagne ou encore la France. Bonjour Flavien Neuvy.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Qui a le plus à perdre dans cette histoire, selon vous ?
Je pense d'abord que c'est le consommateur américain, l'automobiliste américain, parce que c'est lui qui, in fine, va subir les conséquences de ces droits de douane qui deviennent très élevés sur l'industrie automobile, parce que c'est lui qui va retrouver ses droits de douane, en quelque sorte, dans le prix final des voitures. Donc ça, c'est vraiment celui qui va payer le prix le plus cher. Et puis après, bien sûr, l'ensemble des constructeurs qui exportent aux États-Unis. On parle beaucoup de certains constructeurs européens, qui sont d'ailleurs plutôt des constructeurs allemands, parce que l'Allemagne exporte pas mal de voitures aux États-Unis, notamment des véhicules haut de gamme, mais surtout aussi des constructeurs asiatiques, hein, beaucoup de Japonais, beaucoup de Coréens. Donc on va dire que c'est l'ensemble de la filière qui, évidemment, est touchée, concernée par cette décision qui était certes attendue, mais qui est quand même très brutale.
Et est-ce que les constructeurs américains eux-mêmes aussi vont être concernés? journée, ils ont réagi, hein, et même d'ailleurs l'allié de Donald Trump, le milliardaire Elon Musk, hein, qui craint cette décision parce que, comme c'est le cas pour beaucoup de constructeurs américains, via Tesla importe aussi des pièces détachées qui vont aussi être concernées.
Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a bien sûr les voitures qui sont assemblées à l'étranger et vendues aux États-Unis qui sont concernées, mais il y a aussi les pièces détachées. Et là, pour le coup, il faut bien comprendre que l'industrie automobile, c'est une industrie pour laquelle la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des intervenants qui participent à la construction d'une voiture, est une chaîne de valeur qui est très mondialisée. Donc, les constructeurs américains importent beaucoup, beaucoup de pièces qui viennent d'un peu partout dans le monde, d'ailleurs. Et donc, ils seront aussi concernés par indirectement par ces droits de douane. Et eux aussi, donc, devront certainement augmenter les prix des voitures. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour personne, en réalité.
Alors, certains constructeurs étrangers, vous parliez par exemple des Allemands, on sait qu'ils ont déjà quelques usines aux États-Unis. Est-ce qu'ils peuvent envisager de miser davantage sur ces usines? Est-ce que certains pays, du coup, peuvent craindre des délocalisations, par exemple?
Bah alors, écoutez, quand on regarde aujourd'hui les voitures qui sont exportées aux États-Unis, on sait que le Mexique est un grand pays producteur automobile et qui exporte essentiellement aux États-Unis. Donc oui, le Mexique peut certainement se faire un petit peu de soucis par rapport à ça. On a également des constructeurs asiatiques qui ont annoncé vouloir mettre des usines, des implantations aux États-Unis, justement pour pouvoir répondre à cette contrainte de droits de douane. D'ailleurs, c'est l'objectif du président américain. Il le dit, hein, si vous produisez des voitures sur le sol américain, vous ne serez pas concerné par les droits de douane. Donc, venez investir aux États-Unis. Simplement, l'exercice a ses limites parce que quand on vend des voitures, on ne met pas des usines dans chaque pays dans lesquels on vend des voitures. Il y a besoin d'avoir un effet masse. Des usines qui produisent des centaines de milliers de voitures chaque année ont besoin de vendre sur plusieurs marchés. Donc, l'exercice sera compliqué pour les constructeurs qui, de toute façon, ne pourront pas produire toutes les voitures vendues aux États-Unis, ne pourront pas les produire toutes aux États-Unis. Ça n'est pas possible.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire, Flavien Neuvy? Berlin, notamment, appelle l'Union européenne à apporter une réponse ferme, hein, du côté asiatique aussi. On promet des réponses. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait?
Ben, en réalité, c'est un peu le problème des guerres commerciales, c'est que un coût donné engendre en général un coût rendu. C'est-à-dire, tu m'augmentes mes droits de douane de X%, j'augmente les tiens de X%. Donc, c'est un peu une balle de ping-pong qui, à la fin, a du mal un petit peu à s'arrêter. C'est un bras de fer, en quelque sorte, hein. C'est un rapport de force. Donc, évidemment, l'Europe veut réagir par rapport à ça. La difficulté, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, quand on regarde la balance commerciale américaine, elle est très déficitaire. C'est-à-dire que les États-Unis ont une balance commerciale déficitaire de 1000 milliards par an, et sur ces 1000 milliards par an, 1000 milliards de dollars, il y en a 25% qui sont dus à l'industrie automobile. Donc, si vous voulez, dans l'affaire, les États-Unis se disent qu'au final, ils ont plus à gagner qu'à perdre, même si, encore une fois, je pense qu'au final, c'est plutôt le consommateur américain qui en paiera le prix.
Le consommateur américain, et puis aussi les consommateurs des autres pays, on peut l'imaginer. Si, par exemple, la réponse, c'est justement là aussi de répondre avec des droits de douane, tout le monde va être concerné du côté consommateur.
Oui, absolument. Et ça, quelquefois, les gens, même aux États-Unis d'ailleurs, ne perçoivent pas le fait que, in fine, quelle que soit l'augmentation des droits de douane, celui qui est en bout de chaîne et celui qui en subit les conséquences, c'est le consommateur. Sauf à se dire que les constructeurs prendront une partie de ces droits de douane en charge en réduisant leur marge, c'est-à-dire en faisant en sorte que si les droits de douane augmentent de 25%, ils n'augmentent pas les prix de 25%, ça veut dire qu'ils gagneraient moins d'argent sur chaque voiture. Le problème pour l'industrie automobile, c'est qu'elle est dans une situation très difficile parce que les marchés ne sont pas bons. Ils ne vendent pas assez de voitures, notamment en Europe, et donc ils ont peu de marge de manœuvre pour prendre une partie de ces droits de douane sur leur marge bénéficiaire. Donc on peut penser qu'effectivement, la répercussion sur le prix final sera assez significative.
Est-ce que certains secteurs du marché, Flavien Neuvy, pourraient tout de même un petit peu sortir leur épingle du jeu? Je pense par exemple au cas des voitures hybrides qui peut-être auront tout de même une demande dans tous les cas.
Oui, alors le marché ne va pas s'effondrer, ne va pas perdre 50%, si vous voulez, ce n'est pas le scénario central. Hein, on n'est pas dans une hypothèse non plus d'avoir un marché qui bascule complètement dans un territoire négatif, qui obligerait les constructeurs à fermer des usines, etc. Ce n'est pas le scénario central. Non, effectivement, le scénario, c'est plutôt que cela aura un impact sur les prix de vente et donc sur le marché au final. Donc, c'est bon pour personne. Mais évidemment, on voit bien qu'il y a certaines motorisations qui s'en sortent mieux que d'autres. Si on prend l'exemple de l'Europe, on voit qu'aujourd'hui, c'est la technologie hybride qui s'en sort mieux que l'électrique. L'électrique suscite encore beaucoup d'interrogations chez les automobilistes. Et donc, oui, dans ce contexte-là, de toute façon, il y a des constructeurs qui s'en sortiront mieux que d'autres. Il y a des motorisations qui s'en sortiront mieux que d'autres. Et de la même façon, il y aura aussi des équipementiers qui s'en sortiront mieux que d'autres. Voilà, c'est toujours comme ça.
Merci beaucoup, Flavien Neuvy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors que les discussions diplomatiques continuent pour tenter d'aboutir à un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, pour le moment, les combats se poursuivent sur le front, y compris sur le territoire russe dans la région de Koursk. Après avoir revendiqué jusqu'à 1200 km² sous contrôle de l'Ukraine au pic de l'offensive lancée en août dernier, eh bien Kiev ne semble désormais plus se battre que dans une petite poche de terre russe et Moscou a quasiment reconquis la totalité du territoire. Ces derniers mois, et particulièrement lors de la contre-offensive russe dans cette zone rurale de la région de Koursk, les combats ont été acharnés. RFI a pu accéder à la ville de Soudja et à son agglomération. Reportage exceptionnel d'Anissa El-Jabri.
Sur le bas-côté, quelques corps de vaches et de cochons morts, des chars calcinés et dans les champs imposantes, des mines anti-tank. Les derniers tronçons de la route de Koursk à l'approche de Soudja portent encore les stigmates des combats.
Aujourd'hui est un bon jour pour travailler à peu près tranquillement. Comme il y a un vent très fort, les drones ne peuvent pas voler aussi vite et aussi près que d'habitude. Et ils ont besoin de plus de temps pour viser et tirer. Et comme c'est aussi un jour très clair, pour nous c'est aussi plus facile de les voir venir et de les abattre.
Au volant de la voiture des forces russes du groupe tchétchène Armat, l'imam de Koursk, Issa. Encore une journée où il vient procéder avec ses hommes à des évacuations de civils rescapés des combats. Les Russes ont repris pied sur leur terre, mais chaque trajet reste dangereux. Dans la voiture, l'alarme qui signale la présence de drones se fait insistante. Dans cette zone, les véhicules sont tous équipés d'antennes pour les détecter. Les soldats, cartouches spéciales en bandoulière, tous équipés de fusils pour les abattre, comme Islam.
Le détecteur est en train de nous signaler que nous sommes observés du ciel, qu'un drone se rapproche. À ce stade, il est probablement à environ 1 ou 2 km de nous. C'est une distance très dangereuse. Les drones sont rapides, mais ce n'est peut-être pas forcément un engin d'attaque, mais peut-être juste un drone de reconnaissance.
Le bip finit par s'éteindre, la tension redescendre. À une poignée de kilomètres de Soudja, soudain sur les côtés, d'immenses piliers en bois et des hommes qui s'affairent.
Ils ont commencé ça il y a à peine 2-3 jours. Ils installent des poteaux en bois, un filet entre les deux côtés et recouvrent entièrement la route. Ça va ressembler à un corridor entièrement fermé par le haut pour qu'un drone ne puisse pas le franchir. Bien sûr, un drone peut larguer une charge et déchirer le filet, mais ça reste une aide, je dirais 70% du temps. Ça sauve quand même des vies.
Dans Soudja, au détour d'une rue, quelques corps sans vie de soldats ukrainiens, des poules, des chats, des chiens qui errent. L'odeur de brûlé des bâtiments incendiés par endroits prend encore à la gorge. Le nombre de bâtiments épargnés est infime. Périodiquement, le son des combats qui se déroulent à plusieurs kilomètres se fait plus précis. En quad ou en camion ou tout simplement au pas de course, on croise des soldats d'infanterie. Stigmate de la guérilla urbaine qui s'est déroulée ici, des cratères de bombardements, les ponts des routes de ravitaillement sont détruits. On les franchit désormais à pied sur des barrières de fortune entremêlées au-dessus de l'eau. L'imam Issa, lui, n'imagine pas la ville redevenir vivable avant au moins un an. Anissa El-Jabri, Soudja, RFI.
Un reportage à retrouver en photo aussi hein, sur le site internet de RFI. Allez, il est bientôt 12h30 en temps universel. Restez avec nous dans un instant. L'actualité africaine en reviendra notamment sur la condamnation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansala à 5 ans de prison ferme.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Savez-vous que l'usage des forêts, les méthodes agricoles et la place des villes étaient déjà débattus au 19e siècle ? Voilà ce que nous apprennent nos invités historiens qui viennent de publier une histoire environnementale de la France de 1780 à 1870.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras,
du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.